Le show du matin. Weekend.
Avec Carbo.
Pour moi, c'est pas juste de la tôle.
Radio X.
Aïe, aïe. Un beau petit vidéo. Je sais pas si je vais le partager encore, mais c'est très drôle.
Non, mais...
Ça sera une belle journée aujourd'hui. Environnement Canada nous prévoit du soleil et 2 degrés.
C'est le printemps?
J'ose croire que ce sera un petit peu plus que 2 degrés, mais quand même. Ça sera parfait pour le temps des sucres. Quand ce soit moins 8, demain moins 5 et moins 5, ça restera stable. Et lundi, le point de congélation est moins 9. Donc, c'est le fun, les sucres. On va bouillir. Et tout au long de la semaine, ce sera parsemé de gris et de pas gris, mais ordinaire. C'est pas le printemps officiel, là. Il s'installe tranquillement. Tu sais, Nick, quand oui. J'étais jeune, à l'école primaire, on avait une visite à aller faire.
Ah oui?
Ouais. On allait visiter un épave, un bateau.
Oui.
La Grande Hermine. Tu viens-tu?
Oui.
C'est pas loin du Colisée. Ça flottait, là, dans le parc quartier Brébeuf. En tout cas. Un vieux bateau là, dans le temps là, de la Nouvelle-France, peut-être autre temps, notre invité pourra nous corriger. Et j'ai avec nous, parce que moi j'aime ça, une petite page d'histoire, le show du matin, week-end, ça sert à ça, apprendre. Moi j'adore ça. Et j'ai avec nous Dave Noël. Salutations, M. Noël.
Oui, bonjour.
Bonjour, bon matin, merci de prendre le temps ce matin.
Ça fait plaisir, oui.
Pour historien, un sujet,
oui,
historien et journaliste au Devoir, après avoir publié des ouvrages de référence sur Montcalm, eh bien, vous êtes à même de connaître très bien votre parcours. Connaissez très bien la chute de la Nouvelle-France. Vous avez quand même étudié ce sujet-là. Puis ce matin, ben, j'aimerais ça en entendre jaser, parce que moi, j'adore apprendre de notre histoire.
Oui, ben justement, la chute de la Nouvelle-France, la conquête, ça a entraîné beaucoup de naufrages parce qu'on la guerre de la conquête, on l'associe beaucoup à la petite guerre autochtone, le combat en forêt, la bataille des plaines d'Abraham, mais il y a un volet naval qu'on a complètement oublié dans notre mémoire collective. Donc, il y a eu des échanges des canonnades un peu partout jusqu'à Neuville, devant Québec, et ça a entraîné des naufrages. Il y a certaines épaves qui sont toujours là, dans le fond du Saint-Laurent, près de la voie maritime, et on se doute même pas qu'elles sont présentes, là. Des navires importants là,
ah, oui,
pour l'époque.
Hein?
Oui.
Parce que ce qu'on a de mémoire, moi personnellement, en tant que petit garçon qui a vécu toute sa vie à Québec, bien évidemment, les remparts, les canons, les plaines d'Abraham, les canons, on en voit beaucoup, mais c'est beaucoup plus que ça. Là. Vous êtes en train de me dire que même à Neuville, il y avait des canons?
En fait, oui, c'est une bataille navale. C'est la frégate Atalante qui se trouvait alors sous Foulon. Et puis en 1760, quand les Français ont tenté de reprendre la ville, mais qu'ils n'ont pas réussi, donc la flotte britannique de secours arrive par le fleuve, donc d'Angleterre, et une bataille navale qui s'engage avec cette frégate-là française, qui est à peu près le dernier navire de guerre imposant qui se trouve dans la colonie du côté français. Et puis le navire s'enfuit jusqu'à Neuville, et à Neuville, il est rattrapé, le navire, et il est coulé, donc à tout près de la côte, le navire est complètement transpercé, le projectile, et le navire est toujours là en principe, mais comme c'est toujours le cas au Québec avec les glaces, et l'hiver qui suit le naufrage, les glaces vont araser le navire jusqu'à la coque, et ensuite il va être couvert de sédiments et disparaître éventuellement. Et ce qu'on retrouve dans le fond du fleuve, faut pas imaginer la licorne de Tintin, là, c'est pas des navires qui tombent dans le fond de l'eau et qui demeurent intacts, là, c'est vraiment complètement écrasé. Donc, c'est des épaves qui sont peut-être moins agréables à l'œil, mais qui sont tout aussi importantes et qui deviennent un peu des capsules temporelles, parce que un naufrage, ça arrive très rapidement et tout ce qui se trouvait sur le pont est enfoui, encapsulé dans le sable. Et ce qu'on retrouve, c'est extraordinaire, là, des armes, des boulets, des fois des chaussures en cuir qu'on pourrait pratiquement porter, là.
Ah oui?
Oui,
on en a
un cas notamment sur la côte nord à Baie-Trinité. C'est un navire de Fitz, donc la première tentative de conquête de Québec en 1690. C'est un navire qui, sur le retour, a coulé à Baie-Trinité sur la côte nord. Et puis, on l'a retrouvé en 1995, l'épave. Et parmi les vestiges, il y avait une chaussure avec le talon. Tout est là. C'est vraiment... c'est pas toujours le cas, mais dans certains... cas d'épave, on peut trouver des objets là, très, très bien conservés.
Est-ce que c'est éthique de remonter à la surface où on est mieux encore aujourd'hui de croire qu'on est mieux de les laisser au fond?
Il y a été une époque où on en a remonté, notamment dans la rivière Estigouche. Là, on a le Machault, qui est une frégate de 1760, qui a été remontée par Parc Canada. Mais ça demande beaucoup d'entretien. Il faut traiter le bois qui a été longtemps sous l'eau dans des conditions particulières et c'est très coûteux. Et maintenant, on ne fait plus ça du tout. Là. Quand les archéologues vont laisser l'épave sur place. Et puis, des fois, évidemment, on parle des archéologues, mais il y a l'aspect des pilleurs d'épave qui est parallèle. Là. Donc, on parle de gens qui, des fois, vont aller remonter des objets sous l'eau. Et ça, évidemment, c'est à proscrire parce que les objets vont se détériorer et puis ça appartient à un contexte archéologique qu'il ne faut pas altérer. Là.
Ben non, c'est ça. Vous avez fait un mémoire de maîtrise. Et sur quel sujet exactement?
Oui, ce mémoire de maîtrise, ça fait maintenant plus de 20 ans. Là. Donc, c'était sur les dommages collatéraux de la guerre de la conquête. Donc, j'étudiais les effets des combats, de la guerre en tant que telle, sur les civils canadiens. J'avais pris l'île d'Orléans comme exemple, comme modèle. Donc, j'essayais de voir quel était l'impact, par exemple, sur les mariages, la procréation, la mortalité aussi, parce que la guerre, c'est pas seulement les combats, c'est aussi les maladies épidémiques qui se développent dans le contexte des batailles. Et puis, pour le cas de l'île d'Orléans, comme l'île au complet a été presque au complet incendiée par les Britanniques, les soldats de Wolfe, donc l'hiver qui a suivi, il faut imaginer, les gens n'ont plus d'habitation, les récoltes ont été détruites, et puis là, il faut passer l'hiver comme ça. Donc, il y a eu beaucoup de mortalité infantile, donc des enfants qui normalement auraient dû survivre, qui n'ont pas tenu le coup et qui sont décédés dans le courant de l'hiver. Et donc ça, c'est un impact très concret de la conquête. Là.
Ça a été combien d'années de cette guerre-là, cette espèce de guerre-là sur notre terrain? Parce qu'on est habitué de voir dans l'actualité partout ailleurs, mais on a quand même vécu ici au Québec, là, à Québec en particulier. Là. Ça a été combien de temps à peu près, cette guerre-là?
Cette guerre-là, on l'associe beaucoup à la bataille des Plaines d'Abraham, mais la bataille des Plaines d'Abraham, c'est un peu le point culminant. Mais la guerre en tant que telle, ça commence en 1755 et ça se termine en 1760. Donc, c'est 5 années de guerre. Au départ, ça se déroule vraiment aux frontières du Canada de l'époque, donc au lac Champlain, lac Ontario, en Acadie aussi. Mais à partir de 1759, les opérations militaires se transportent dans la vallée du Saint-Laurent, au milieu des habitations. Et là, ça prend une autre dimension, là. Mobilisation générale des miliciens, et ça devient une forme de guerre totale là, à l'échelle de la colonie.
Quand je pense à ce conflit-là, je pense à quelqu'un qu'on a cherché, son tombeau, Montcalm.
Oui.
Hein? Vous avez fait un livre de référence en lien avec lui.
Oui, en fait, j'ai écrit un ouvrage en 2018 qui a été réédité en compact l'année dernière. Donc, il est disponible dans les librairies. Montcalm, général américain. Et ça, c'est un titre qui était un peu provocateur à l'époque. C'était pour rappeler que Montcalm n'était pas... On l'a beaucoup décrit comme un aristocrate qui débarquait dans les colonies, qui ne savait pas comment se battre. Donc, ce titre-là, ça évoquait un général qui se battait à l'américaine, si on veut. Puis, pour ce qui est de son tombeau, en fait, il a été enterré sous le plancher de la chapelle des Ursulines au lendemain de la bataille des Plaines d'Abraham. Donc, il est décédé de ses blessures le lendemain matin et on l'a enterré là parce que c'était un des bâtiments qui était toujours debout. Donc, on l'a mis sous le plancher comme on faisait à l'époque pour les notables. Et puis, on a retrouvé son crâne dans les années 1830. Le reste, c'était désagrégé. Et puis, son crâne, il est maintenant au cimetière de l'hôpital général au bout du boulevard Langelier.
Oui, en bas.
Dans un petit mausolée, dans le fond. Il a été transporté là en 2001. Donc, avant ça, il était aux Ursulines, où il avait été enterré en 1759.
Quand même. Et au travers des lectures que j'ai pris le temps de faire sur votre sujet... Puis un endroit que j'aime beaucoup à Québec, qui est le secteur de Lotbinière. Qui est Michel Chartier de Lotbinière?
Oui, c'est ça. J'ai écrit sa biographie en 2023. Donc, c'est un ingénieur militaire qui se trouvait d'ailleurs à la bataille des Plaines d'Abraham. Donc, lui, il construisait des forts en Nouvelle-France. Et puis, quand la conquête arrive, il est encore relativement jeune, dans la mi-trentaine, et puis il s'en va en France, il revient dans la colonie qui est devenue britannique. Donc, lui, il a une vie complètement folle. Il va devenir espion pour la France au début de la Révolution américaine. Il va aller à Boston faire de l'espionnage pour voir ce que les Américains font. Par la suite, il va être anobli par Louis XVI. Une vie vraiment extraordinaire. Puis il a laissé un journal personnel, comme vraiment un journal intime écrit au quotidien, Et ça, c'est extrêmement rare, là. Des fois, on va avoir des journaux de guerre où un individu va raconter, par exemple, le siège de Québec de 1759. Et là, ça commence au début, ça se termine à la fin, mais lui, c'est un récit personnel qui va tenir jusqu'à sa mort. Et donc, c'est vraiment une plongée dans l'intimité d'un notable Canadien du 18e siècle. Et ce journal-là, en partie, est éparpillé un peu partout dans les centres d'archives. Mais la partie la plus intéressante se trouve à New York, où il est décédé en 1798 de la fièvre jaune. Donc, mon ouvrage servait justement à montrer qu'est-ce qu'on trouve dans ce journal-là intime, qui est vraiment c'est un cas unique.
Oui. Puis on le surnomme le Vauban du Canada. Pourquoi?
Oui, ben Vauban, donc, c'est l'ingénieur militaire de Louis XIV qui a un peu réformé la façon de construire des fortifications. Faut imaginer les fortifications en pointe, là, comme on a à la citadelle de Québec. La citadelle est britannique, mais elle reprend le modèle dit de Vauban. Et puis, le Binière, lui, comme il était très perfectionniste, on disait qu'il était comme Vauban. Donc, il était aussi un peu trop affairé, puis ses chantiers souvent s'éternisaient. Donc, on l'a surnommé le Vauban du Canada, mais c'était par dérision pour se moquer de lui.
OK, c'était faux. Puis lui, ben, j'imagine qu'il ne va pas prendre ça du bon bord.
Non, pas vraiment. Puis lui, en plus, c'est ça, c'est... En fait, il était très, très perfectionniste, ce qui est bien en principe, mais en temps de guerre, souvent, il faut aller vite. Et puis, c'est ce qu'on lui reprochait, notamment Montcalm lui disait qu'on aurait dit qu'il travaillait comme en temps de paix, alors que c'était la guerre. Mais lui, il prenait son temps, il s'assurait que tout était vraiment parfait. Et ça, donc ça a entraîné un peu sa mise à l'écart des opérations. Et à la bataille des Plaines d'Abraham, par exemple, il est devenu l'aide de camp du gouverneur Vaudreuil. Donc, il servait de messager, mais c'est intéressant parce qu'il se promène un peu partout sur le front et puis il le raconte dans son journal.
C'est quand même très intéressant. C'est le fun parce que dans mes lectures, vous avez un personnage préféré de cette période-là, c'est François-Charles de Bourlamaque.
Oui, c'est un personnage, en fait, qu'on a oublié, parce que dans la hiérarchie militaire, on avait Montcalm, qu'on connaît parce qu'il est mort à la bataille des Plaines. On a Lévy, qui était son second, qui a remporté la bataille de Sainte-Foy, qui est un peu le match-revanche de la bataille des Plaines. Et Bourlamaque, lui, c'est le troisième, donc on parle moins des numéros 3 dans l'histoire.
Il était dans l'ombre, veut pas. Hein?
Oui, puis en plus, on n'a pas son portrait, donc ça aide pas à le publiciser, mais c'est un général qui était vraiment très... très compétent et à la bataille de Sainte-Foy, remportée par Lévy, il va jouer un rôle très important. Donc, effectivement, c'est un personnage que j'aime bien, dans les grands oubliés, un peu à la Serge Bouchard, là, Bourlamaque, c'en est un, oui.
Ah, vraiment. Donc, votre date préférée en terminant?
Ah, bien, préférée, c'est particulier parce que c'est mon intérêt. Je me suis spécialisé sur la bataille des Plaines d'Abraham. Donc, c'est ma date préférée, mais évidemment, c'est un événement tragique. J'aurais pas aimé ça être là personnellement, donc dans cette bataille-là, mais préféré dans le sens d'intérêt. Donc, c'est un sujet d'intérêt. C'est une bataille qu'on sous-estime parce qu'on en a beaucoup parlé autrefois. Puis aujourd'hui, on a tendance, comme par un effet yo-yo, de la relativiser à l'extrême, alors que c'est une bataille fondamentale qui a fait basculer la guerre.
Vraiment. Puis en histoire, je trouve que dans les cours à l'école, on n'en parle pas assez. On va trop en surface. Mais on aurait deux beaux ouvrages que vous avez faits, Chartier de Lotbinière, en 2023, et Montcalm, général américain, aussi, c'est Montréal-Boréal?
Oui, aux éditions Boréal.
Ouais, oui, exactement. Donc, on pourrait trouver ces deux bouquins-là. Ben, merci d'avoir fait une petite lumière sur notre histoire qu'on oublie trop souvent. Hein? On regarde trop le moment présent, puis des fois, aller voir en arrière, c'est toujours plaisant.
Merci à vous.
Merci d'avoir pris le temps. Bonne journée. Dave Noël.
Très intéressant.
Ouais.
Ouais.
C'est l'enfer.
Tu sais,
vois-tu, moi, j'ai jamais pensé, puis dans l'histoire à l'école, puis j'étais un tripeux d'histoire,
ouais,
j'ai jamais su que l'île d'Orléans avait été mise à feu au complet.
Non, c'est ça. Puis il y a beaucoup d'aspects de notre histoire qu'on oublie ou qu'on ne connaît pas. Puis on a ça sous nos pieds, là, ici, dans le Québec.
Oui, exact. Tu sais, il y a des profs d'histoire qui sont remarquables. Je sais, je regarde mes préfabs à l'école présentement. Ils ont tous les deux des cours d'histoire, une en secondaire 4, une en secondaire 1. Puis là, moi, je dis, Florence, ouais, mais le cheval de Troie, la bataille de Troie, oui, matin un peu, on s'en vient au Québec.
Ouais.
Mais ils devraient commencer par l'histoire du Québec. Moi, je pense que ça devrait passer par là.
Ouais.
Oui, c'est vrai, la guerre de Troie, ça a été quelque chose. Oui, il faut apprendre du par cœur, il y a des dates à retenir, des choses comme ça. Mais on devrait quand même commencer puis à nous intéresser à notre propre histoire, nous qui est exactement à l'endroit même.
Mais c'est fou. Hein? Tu sais, on avait une discussion cette semaine avec des gens, puis on n'apprend pas de notre histoire.
Non.
Tu comprends?
Ouais.
On n'apprend pas. On est encore en train de se mettre les pieds dans des conflits et des guerres. On n'apprend pas.
Non.
On pense qu'on va être meilleur. Ah ouais, mais là, cette fois-là, ça va être différent.
Et là, on aide avec une technologie, une intelligence artificielle, on aide avec toutes sortes de choses. Mais à la base, l'humain, là, il n'a pas évolué bien.
Pas tant que ça.
Non.
C'est dommage parce que...
Il s'est industrialisé, il se réfère. Mais t'as encore au Québec 50% d'analphabètes fonctionnels, là. T'as encore au Québec à moitié de la population. T'es écoutes les tribunes du peuple?
Ben ouais.
Bon.
Mais on est industrialisé depuis quoi? 250 ans, peut-être?
Peut-être. Hein?
J'imagine qu'on est de quoi? On est encore dans l'enfance de cette industrialisation-là.
Ouais. C'est fou, là.
Bon. Tu sais, ça fait juste 250 ans, mettons, là.
Ouais. Mais ça devrait être de... Mais c'est ça. Moi, un Dave Noël, je pourrais l'écouter toute la journée. Je pourrais me raconter ça toute la journée, ouais. J'écouterais. C'est le fun. Ah ouais, hein, c'est vrai. Puis là, tu fais des références. Bourg-la-Marque. Il y a une rue Bourg-la-Marque à Québec. Ben oui. Ah! Ah! Ah ben!
Ah ben!
On s'en va à la pause. On vient
ah
s'en
ben!
Ladies
and gentlemen!
Le show du matin. Quiet, please. Weekend.
Radio.